dans le 13e chapitre de l'évangile de Jean. Cette semaine est la semaine qu'on appelle en général la semaine sainte. Alors je ne sais pas s'il se passe plus de choses saintes dans cette semaine que dans les autres, si les gens arrêtent de faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, je crois pas, mais c'est une semaine, on appelle cela la semaine sainte par rapport à la dernière semaine de Jésus-Christ avant sa crucifixion. Donc j'espère que vous lisez les textes qui se rapprochent de cela dans la Bible. Alors, on veut prendre le temps de regarder aujourd'hui les quelques heures qui précèdent la crucifixion de Jésus-Christ, et Jésus se trouve dans la chambre haute avec ses disciples. Donc c'est un entretien vraiment privé. Il faut imaginer donc chapitre 13, 14, 15 et 16, et si on ajoute le chapitre 17 avec la prière de Jésus-Christ, eh bien ce sont des instants de discours par la prière privée entre Jésus et ses disciples. Et imaginez ce que le Seigneur Jésus, quelqu'un dit, personne ne sait qu'elle va mourir, ce qu'elle dit est dans les dernières heures de sa vie. Mais imaginez quelqu'un qui est saint, qui n'a jamais péché, qui est le Seigneur des Seigneurs, s'entretient avec ses disciples. C'est encore plus important ce qu'il laisse comme enseignement. Et donc nous voulons voir dans le chapitre 13 la scène particulière où Jésus a lavé les pieds des disciples. Alors j'avais l'intention de vous faire mettre en petit groupe, d'enlever vos chaussures, de vous donner des bassines d'eau, et puis qu'on pratique. Mais je pense qu'il y en a qui seraient pas contents. Alors ils auraient aimé être prévenus avant pour faire un premier lavage des fois. Hein? Donc ça nous arrange pas toujours trop, mais bon.
Donc si on prend le texte ici,
il faut essayer d'imaginer la scène quand même. Hein, certainement très une atmosphère très très dense. Hein. C'était pas quelque chose de, je pense pas que ça rigolait là-dedans. Hein. C'était quelque chose de dense, de solennel quand même. Hein. Il faut vous penser que Jean écrit ça pas juste après l'événement. Il écrit ça des décennies plus tard. Hein. C'est-à-dire, dans ma Bible, je ne sais pas si dans vos Bibles, vous avez des dates. Des fois, il y a des dates de rédaction dans votre Bible, je ne sais pas si vous en avez. La mienne dit que on estime à peu près la date de rédaction environ 85-90 après Jésus-Christ. Et donc ça veut dire que ça remonte à plusieurs décennies après, allez, on va dire à l'an 33, l'an 34, 35, on est à presque 50 ans quand même. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui vient, que Jean présente avec une perspective particulière. Quand on lit cela, on est obligé de, on comprend que Jean écrit avec un éclairage particulier. Et l'éclairage particulier de Jean ici, c'est l'éclairage de la croix. Hein. Jésus est mort, ressuscité. Déjà, donc tous ces événements sont passés. Et il écrit à la lumière de toutes ces choses-là. Donc il y a une part, si on peut dire, hein, d'interprétation dans ce que Jean écrit, de ce que Jésus a fait. Et ça se sent même dans ce texte-là. Dans les premiers mots ici qu'il écrit. Donc la scène se déroule quelques heures seulement avant la crucifixion, hein, c'est le repas, la veille du vendredi, je pense. Et donc vraiment, je crois qu'il faut qu'on note que la perspective de la croix marque fortement l'événement. Avant, il dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Tout le monde est au clair avec ce que c'est que Pâques. Si on me demande qu'est-ce que c'est que Pâques, qu'est-ce que vous dites? C'est quoi le Pâques? C'est ce qui est écrit là, ici, juste là. Est-ce que c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Est-ce que ça fait référence à ça? Là, ici. C'est ce à quoi on pense. Hein? Mais quand il dit avant la fête de Pâques, pense à la Pâque juive, hein, à ce que Dieu a institué et qui se rapporte à la, à quoi? À la sortie, à la délivrance, à la sortie du peuple d'Égypte. Hein, quand l'ange de l'Éternel est passé par-dessus, c'est ça le mot, ça veut dire le mot Pâques, hein, passé par-dessus, le peuple d'Israël a été protégé. Vous pouvez relire tout ça, puis dans Exode chapitre 12, hein, je crois, vous pouvez voir ça. Donc, et Jean dit ici, qu'est-ce que Jean fait en premier dans ce verset? Qu'est-ce qu'il saute aux yeux? Qu'est-ce qu'il commence par faire dans ce texte qu'on lit ici? Quelles sont les premières choses qu'il fait ici? De qui il parle? De Jésus. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit de Jésus? Qu'est-ce qu'il dresse comme... qu'est-ce qu'il dit de Jésus ici? Il savait. Il parle de Jésus dans la connaissance et la conscience qu'il avait des choses. Il savait quoi? Il savait que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Donc il a, ici, on voit bien la perspective de la croix, hein, des souffrances qui sont devant lui, de sa mort et puis de sa résurrection. Hein. Et puis qu'est-ce qu'il dit d'autre concernant Jésus? Voilà, il parle de son amour pour les siens, d'accord? Mais si on continue, il dit quoi? Verset, donc il met le comble à son amour pour les siens. Et verset 2, est-ce qu'on apprend des choses encore? Il dit quoi? Oui, il y a cette pression, mais qu'est-ce, par rapport à Jésus, qu'est-ce qu'on voit? Il dit pendant le souper, encore, le diable... alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote Simon de le délivrer, donc on continue, Jésus, il savait, d'accord, que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Donc il était conscient de quoi ici, on pourrait dire, de sa... Oui, j'ai entendu, de sa puissance, de son pouvoir, il dit tout pouvoir quand il est pas... plus tard, il avait dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, un tout pouvoir m'a été donné, donc conscient de ce pouvoir, et puis il dit aussi... Il savait quoi? Il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il savait quoi d'autre? Qu'il était venu de Dieu et il savait qu'il s'en allait à Dieu. Donc il y a cette relation avec son Père, prenez même sa divinité. Donc tout cela, je crois que Jean enferme d'abord, il dresse quand même un tableau de la personne de Jésus pour montrer sa conscience de ce qui doit venir, sa connaissance, sa puissance, sa relation, sa divinité avec Dieu. Et puis, il établit un contraste, quelque chose qui est assez, assez particulier. Il dit, voilà, Jésus, sachant tout cela, qu'est-ce qu'il fait? Il met quoi? Le comble à son amour. Alors, ça veut dire quoi, mettre le comble à son amour? Alors, on est... Oui, une preuve ultime. Voilà, le sens, en fait, c'est aller, si vous lisez dans notre traduction, c'est aller jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout de son amour. Et comment Jean montre cela? Il dit qu'il met le comble à son amour pour eux. Il va jusqu'au bout de son amour pour eux. En faisant quoi? En s'abaissant pour laver les pieds de ses disciples. Alors, il y a un contraste qui est établi ici. Hein, c'est le Seigneur des Seigneurs, Jésus, qui est conscient de qui il est, qu'il vient du Père, qu'il retourne au Père. Il connaît Judas, au verset 10, de quoi il dit qu'il connaît celui qui allait le trahir. Il sait que Judas est là, qu'il va le trahir. Le diable a déjà mis un mauvais dessein dans son cœur. Il a tout pouvoir, il dit, hein. Il connaît que tout lui a été remis. Et il pousse son amour jusqu'au bout pour ses disciples. Et il va témoigner, manifester de cet amour dans ce moment solennel en leur lavant les pieds. Et c'est une scène assez, assez étrange à laquelle on est invité, assez choquante d'ailleurs, hein, que l'on peut voir ici. Alors on pourrait se poser la question de l'attitude des disciples, hein, on le voit avec Pierre ici, lorsque il voit Jésus faire cela. Hein. Il ne s'attendait certainement pas à ce qu'il fasse ceci. Donc ce texte, vraiment, c'est un texte qui nous montre comment le Seigneur s'est humilié. Comment son amour l'a poussé vraiment à s'humilier vis-à-vis de ses disciples. Et on voit souvent dans ce texte ce que Jésus donne comme explication plus tard au verset 12 quand il dit « Avez-vous compris ce que je vous ai fait ?» Et on dit, voilà, ce que le Seigneur montre à travers ce texte, c'est vraiment la nécessité de s'humilier, d'accord, pour l'amour pousse à s'humilier pour servir les autres. Mais dans l'échange qu'il y a avec Pierre, on sent qu'il y a quand même un petit peu, il y a quand même plus que cela, parce qu'il parle de laver celui qui est quelqu'un, vous avez discuté ça, hein, celui qui est baigné n'a pas besoin d'être lavé, il est déjà pur, mais il a besoin de se laver que les pieds. Donc il y a quand même une dimension, quelque chose de différent que le Seigneur Jésus apporte ici. Et je voudrais souligner cela un peu ce soir. Premièrement, c'est que on pourrait dire ici, quand on lit surtout dans l'entretien que Jésus a avec Pierre, il montre qu'il n'y a aucune relation avec Christ qui n'est possible sans vraiment une œuvre de purification. Et on lit ça à la lumière de la croix, une œuvre de purification accomplie par Jésus à la croix. Il n'y a aucune relation, ça, possible avec Christ sans une purification, cette purification qui est opérée par l'œuvre de la croix. Pierre, il est choqué lorsque Jésus vient lui laver les pieds. Pourquoi est-ce qu'il est choqué? Je ne sais pas si vous aviez quelqu'un avait cette question. Hein. Pourquoi est-ce que, selon vous, Pierre est choqué? Voilà, hein, il est dans un mode de fonctionnement social normal, hein, on pourrait dire. Hein, c'est pas normal que le Seigneur vienne, s'abaisse pour laver le pied des disciples. Hein. C'est-à-dire que, bon, peut-être nous, on se rend pas compte, nous on marche avec des chaussures, on a de belles chaussures, des talons qui sont comme ça, qui nous mettent hors du sol, certaines personnes, parfois. Donc, on se rend pas compte de ce que c'est, mais à l'époque, il y avait que des sandales et les gens qui marchaient ramassaient beaucoup de poussière. Les routes n'étaient pas bitumées comme les routes que l'on a maintenant. Et donc, on avait deux possibilités. Où il faisait beau, on avait de la poussière dans les pieds. Où il pleuvait, on avait de la boue. Hein. Donc, c'était un petit peu comme cela que les pieds étaient. Puis, les gens rentraient dans les maisons et quand ils mangeaient, comment ils mangeaient? Ils mangeaient, ils étaient plutôt allongés. C'était pas une table avec vous mettez les pieds sous la table. Hein, mais c'était presque au même niveau. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un et puis son pied pas très loin de vous. Donc, il fallait vraiment que les pieds soient propres quand les gens rentrent. Mais c'était une tâche qui était extrêmement dégradante et qui était réservée aux esclaves. Et j'ai lu quelque part que même les esclaves juifs, même si quand quelqu'un avait un esclave juif, il ne devait même pas exiger de l'esclave juif qu'il lui lave les pieds. Il fallait que ce soit un esclave de chez les païens, de chez les gentils. Tellement la tâche était considérée comme basse. Mais voilà que, on pourrait dire, Jésus et ses disciples, ils ont loué un local, ils rentrent. Il n'y a pas d'esclaves. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne qui pense à laver les pieds des autres. Et c'est Jésus qui lui est le Seigneur, vient et puis s'abaisse. Il lave les pieds des disciples. Donc les disciples, je pense qu'ils devaient être extrêmement choqués et un silence a dû tomber dans cette salle parce que c'était une situation pas du tout normale. Alors Jésus lave le pied, probablement le pied de quelques disciples et puis il arrive à Pierre et Pierre il dit non Seigneur, toi tu me laves les pieds, il dit non, ça je peux pas. C'est pas les autres qui n'ont rien dit, mais moi je vais pas laisser faire. Et vous connaissez Pierre, hein, lui il a pas la langue dans la poche, et donc quand il faut s'exprimer, il s'exprime. Et Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit, tu ne comprends pas maintenant ce que je fais, mais plus tard tu comprendras. Et Pierre il est pas convaincu par cela. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, jamais tu ne me laveras les pieds. L'expression est très forte, hein, c'est une double négation et c'est le mot qui est utilisé parfois pour dire au siècle, éternité, siècle des siècles. C'est comme s'il disait jamais de l'éternité tu me laveras les pieds. Jamais de la vie. Des fois nous on dit jamais de la vie, hein, c'est-à-dire on va jamais accepter cela. Et donc c'est une expression très très forte. Il est tellement choqué par cette situation, il est tellement aussi, je pense, il est soucieux de l'honneur que doit avoir Jésus, qu'il refuse que Jésus lui lave les pieds. C'est à ce moment-là que Jésus lui dit, si je ne te lave, il dit pas si je te lave pas les pieds, hein, il dit si je ne te lave. Hein. Il dit, tu n'auras point de part avec moi. Et je crois que ça, c'est une chose importante que Jésus veut souligner ici. Hein. L'enjeu ici, c'est d'avoir part avec Christ, avec Jésus-Christ. Et donc, c'est-à-dire avoir une véritable communion avec lui, être réconcilié avec Dieu. Et Jésus dit, si moi je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir de part avec moi, de communion avec moi. Et quand on lit par exemple Colossiens chapitre 1 verset 12, vous vous rappelez, l'apôtre Paul dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Donc le salut, hein, celui qui est racheté, il a part, il a une communion particulière avec Jésus-Christ. Et on peut comprendre l'enjeu que cela représente quand on considère le sort de ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Par exemple, Apocalypse 21, versets 7 et 8, on peut lire ceci. « Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » Leur part, vous voyez, sera là. Ils n'auront pas part avec Dieu, mais ils auront part avec ceux qui n'ont jamais connu Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose qui est important que Jésus souligne. Et il dit en fait ici que pour avoir part avec lui, il faut avoir été lavé. Il faut avoir été lavé. Donc il n'y a pas que le geste que Jésus fait ici. Derrière, il y a une signification dans laquelle il dit à Pierre, il faut avoir été lavé, bien sûr, par... Il fait un enseignement, hein, avoir été lavé par Jésus-Christ. Hein. L'apôtre Paul soulignait ça aussi, quand il parle de ceux qui sont passés de la mort à la vie, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu, ne vous y trompez pas. Il dit que les impudiques, les idolâtres, les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été, quoi ? Lavé. Vous avez été lavé. Vous avez été sanctifié. Vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc ici, le pécheur est toujours représenté comme quelqu'un de sale, de souillé, d'impur et qui a besoin d'être baigné, d'être lavé, hein, pour pouvoir avoir une communion avec Jésus-Christ. Donc il n'y a aucune part avec Dieu en dehors de Christ, il n'y a aucune part avec Christ à moins que Christ ne purifie le pécheur. Et Jésus dit à Pierre ici, si je ne te lave, tu n'as aucune part avec moi. Donc bien sûr, il n'est pas en train de dire, il suffit que je te lave les pieds pour que tu sois sauvé. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire ici. On comprend bien cela. Hein. Mais ça veut dire, si tu ne me laisses pas faire, si tu ne te soumets pas, hein, et qu'il avait besoin lui-même, Pierre, de s'humilier dans cette situation aussi, hein, pour qu'il soit, ses pensées même soient purifiées. Et Jésus dit, si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part avec moi. L'homme pécheur ne peut pas être admis dans la présence de Dieu, à moins, bien sûr, que Jésus ne le lave. Hein. Ananias dit à Paul, quand il va le voir, lorsque Paul se convertit, il dit, maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Donc, il y a derrière toute cette symbolique où voilà, on a besoin d'être baigné, lavé, purifié, nettoyé de notre péché par Jésus-Christ et par l'œuvre qu'il va accomplir dans quelques heures ici à la croix du calvaire. Et notez aussi que Jésus dit à Pierre, tu n'as aucune part avec moi si je ne te lave. Il faut que ce soit Christ lui-même. On ne peut pas être purifié autrement que par Jésus-Christ et par l'œuvre de Christ qui a été accomplie à la croix du calvaire. Christ se livre, la Bible dit, l'apôtre Paul le dit, pour se constituer un peuple qui lui appartienne, un peuple purifié par lui. Pas purifié comme il veut, purifié par autre chose, purifié par des cérémonies, purifié par des œuvres. C'est purifié uniquement par Jésus-Christ. Tite chapitre 2, verset 14, je vous le lis, il s'est donné lui-même, donc ça parle de sa crucifixion, son sacrifice, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Et donc, voilà, c'est lui qui c'est lui-même qui doit opérer cette purification. Alors, à ce moment-là, que fait Pierre quand il entend cela? Il dit, ah ben, dans ce cas, pourquoi pas aussi la main et puis la tête? C'est comme si, bon, j'ai l'impression que c'est comme s'il disait à Jésus, mais pourquoi pas tout ça pendant que tu y es? Hein, pourquoi que les pieds, si vraiment j'ai besoin d'être lavé? Et Jésus dit ici, qu'est-ce que répond Jésus? Il dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Hein. Donc, Pierre, c'est l'homme des extrêmes. Hein. Il passe du « non jamais, je te laisserai laver mes pieds » à « eh bien, lave tout, hein. Lave la tête, etc. » Et c'est le grand mouvement de balancier. Hein. Mais on le regarde et on se reconnaît, n'est-ce pas, dans l'attitude de cet homme. Alors, ceux qui ont réfléchi un petit peu là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire, parce que vous aviez cette question-là, je crois que c'était là-bas, hein. Qu'est-ce que celui qui est baigné n'a... Comment vous avez compris ça? Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Déjà, l'image, hein, qu'est-ce que ça représente? C'était là-bas que vous aviez ça, je pense. Hein. Vous avez dit quoi? J'ai entendu que vous discutiez là-dessus. Alors vous avez des réponses, je pense. Oui? David, tu as quelque chose? Non, tu n'as rien? Vous avez eu du mal à trouver? Bon, l'image, c'est quoi l'image? Oui, vous avez quelque chose? Oui, oui, certainement. Mais c'est pas ce que Jésus dit ici. L'image, c'est plus ça. C'est vrai ce que tu dis, mais en plus, il dit celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Donc, il dit que il répond à Pierre. Pierre dit, mais à ce moment-là, la tête et les mains aussi. Mais Jésus dit non, parce que celui qui est baigné, il prend l'image. C'est quoi cette image? Bon, on peut penser, hein. C'est l'image qui est là, elle est toute facile à comprendre, hein. C'est le. Oui, non, c'est pas. Non, l'image en elle-même, c'est juste un bain, hein. Celui qui, à l'époque, vous avez vos douches particulières, mais les gens, ils avaient des. On allait dans les bains publics. Et quand on se baigne dans le bain public, après, qu'est-ce qu'on fait? On sort pour aller à la maison. On va comment à la maison? On rentre pas dans la voiture feutrée, climatisée et tout, non. On y va à pied et les pieds se salissent. Quand on arrive à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On a juste à se laver les pieds. Parce qu'on est déjà baigné, on est déjà propre, hein. Et Jésus emploie cette image pour parler aussi, pour parler à Pierre, hein. Et il dit à Pierre, non, mais celui qui est déjà baigné n'a besoin de se laver que les pieds pour être entièrement pur. Et puis il ajoute, et vous êtes, il dit, comment il le dit, Lisa? Vous êtes pur, il dit, à part quelqu'un, il dit quelque chose comme ça. Il dit, vous êtes pur, mais non pas tous. Bien sûr, il dit cela, pourquoi il dit, mais non pas tous? Car il connaissait celui qui allait le livrer, c'est-à-dire Judas. Hein. Donc il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Spirituellement, ça veut dire quoi, ça? Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire spirituellement? Quelle doctrine on pourrait voir apparaître derrière?
Celui qui est sauvé, oui. Il a besoin d'être régulièrement purifié.
Voilà, régulièrement purifié, ça c'est bien. Donc on pourrait parler de quoi ici? De quelle doctrine, si on pourrait dire? Ça se rapproche un peu de la justification qui a lieu une fois pour toutes. Et puis, le chrétien, même justifié, d'accord, a besoin continuellement d'être sanctifié. Et c'est vrai, et j'ai résumé ce point par ceci, en disant que la présence du croyant dans le monde nécessite toujours une purification, sanctification constante. Et c'est vrai que le fait qu'on pourrait prendre l'image, quand on sort dans le monde, hein, on est au contact du monde, le chrétien est au contact du monde, et puis il reçoit, hein, des choses, parfois lui-même, il pêche, et donc il a constamment besoin d'être purifié. Il ne perd pas son salut parce que il a péché. Celui qui est au Seigneur, c'est pas parce qu'il a péché. Si on vit dans le péché continuellement, là, c'est une autre affaire. Mais celui qui est au Seigneur vraiment, qui pêche, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit quoi? Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Vous voyez encore le mot, il est là, de toute iniquité. Donc ça veut dire, celui qui est un enfant de Dieu, il est pur parce qu'il a été justifié par Jésus-Christ. Mais il a besoin continuellement de Christ encore pour être lavé, continuellement. Et donc, on pourrait dire ici que on voit dans ce que Jésus dit ici l'œuvre continuelle de la sanctification du croyant. Alors, quels sont les moyens de sanctification? Attendez trop. Mais quels sont les moyens de sanctification que nous avons? La parole. Donnez-moi un verset. À la fin de ce discours, Jean chapitre 17, on a quoi? Qu'est-ce que Jésus dit dans sa prière? Oui, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Par ta vérité. Moi, j'ai sanctifié par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et puis, donc ça, c'est la parole est un moyen que nous avons pour être purifiés constamment. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que le croyant doit toujours lire la parole de Dieu, se laisser transformer par elle. Et toujours et toujours. On peut dire je prie, mais si la prière n'est pas connectée à la parole, d'accord? Il faut connaître Dieu. Il faut que la parole pénètre dans nos cœurs, qu'elle accomplisse son œuvre pour qu'on puisse être purifié. Donc le chrétien doit lire la parole de Dieu et se laisser transformer par elle. Autre chose que l'on a encore là, on a lu tout à l'heure, la repentance, on en a cité. 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Donc la confession et la repentance, c'est un moyen aussi que nous avons pour que Dieu utilise pour nous purifier. Chaque jour. Donc celui qui pêche et qui ne se repent pas, il ne se purifie pas. Et si ça continue, il n'est pas lavé, d'accord? Et si c'est quelque chose qui dure, il faut vraiment se poser la question à ce moment-là, non pas du lavage, mais du bain complet. Est-ce qu'on est vraiment baigné? Celui qui est baigné, il est pur. Et il a besoin à chaque fois de la purification continuelle des mains, des pieds, etc. Pour continuer avec l'image. Qu'est-ce qui peut nous aider encore dans la sanctification? Eh bien, la communion fraternelle. Ça nous aide dans la sanctification. Hébreux, chapitre 10, verset 24, dit « N'abandonnons pas notre assemblée, mais veillons les uns sur les autres pour nous exciter aux bonnes œuvres, à la charité, aux bonnes œuvres. » Donc, nous sommes appelés à et comme cela, confessez vos péchés les uns les autres, et voilà. Et nous pouvons ainsi progresser dans ce chemin de sanctification. Alors, pour revenir aux questions que vous avez ici un petit peu, qu'est-ce que Pierre n'a pas compris selon vous, c'est vous qui avez cette question, dans ce que Jésus faisait? Parce que Jésus lui dit, tu ne comprends pas ce que je fais. Si. Je sais, c'est l'heure, je sais. vous avez mis quelque chose ici? Non? Et qu'est-ce que Pierre n'a pas compris ou ne comprenait pas? Parce que Jésus dit, tu ne comprends pas maintenant ce que je fais, mais tu le comprendras plus tard. Oui.
Parce que ce que symbolise l'acte de Jésus.
Oui.
Pierre, il voyait ça de façon basique. En fait, il voyait simplement le fait de laver les pieds.
Oui.
Mais le symbole qui était derrière ça, c'était effectivement la sanctification continuelle qui allait avoir lieu dans la vie de ces vrais disciples.
Oui, voilà.
Ce qui est certain aussi, je pense, c'est que Pierre ne peut pas comprendre dès à présent. Il comprendra cela une fois que Christ sera glorifié, une fois qu'il aura reçu l'Esprit Saint.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a les deux aspects. Il y a cet aspect-là que vous dites, du fait d'avoir un éclairage nouveau après la résurrection de Christ. Mais il y a aussi le fait que plus tard, Jésus, ça peut se lier à ce que Jésus dit aussi un petit peu plus tard, où il explique, avez-vous compris ce que je vous ai fait ici? Et je crois que Pierre n'a pas saisi le fait que aimer, c'est aussi s'humilier. Hein. Il n'a pas compris aussi pourquoi Jésus était venu. Pour eux, c'était le roi qui allait régner. Et vous savez, Luc dit que dans ce moment où les disciples... Luc rapporte la scène de cet entretien un petit peu, et il dit, à ce moment-là, les disciples étaient en train de se poser la question, qui sera estimé le plus grand? Voilà quelle était leur pensée, si vous voulez, pendant ce moment où peu de temps après, Jésus, eh bien, il va leur laver les pieds. Donc Jésus est animé d'une pensée d'humilité, eux étaient animés d'une pensée plutôt orgueilleuse, savoir qui serait placé à telle place, dans le royaume de Dieu. Et quand on est animé de cette pensée-là, on ne pense pas à laver les pieds des autres. Hein? Et donc, Jésus va régner, quelle place on sera avec lui? C'était ça qui était dans leur attitude. Ils n'ont pas compris, et la Bible dit qu'ils n'ont pas compris que Jésus était le serviteur, le Messie était le serviteur souffrant. Celui qui venait pour s'offrir. Et je crois que c'est dans Luc, où il dit dans Luc chapitre 24, Jésus a dû leur ouvrir l'esprit quand il était ressuscité pour qu'ils comprennent les Écritures. Il n'avait pas compris que le Christ devait souffrir ces choses. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs? Hein, Jésus leur dit quoi? Il dit, ô homme sans intelligence, lent à croire ce que les prophètes ont annoncé. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et puis qu'il soit élevé dans la gloire? C'est des choses qu'ils n'ont pas compris. Hein. Je pense, si quelqu'un a Luc, si je l'ai ici, Luc 6:40. Non, c'est ça, non pas Luc 6:40. J'ai pas noté, peut-être. Oui, Luc 18:34. Luc 18:34. Quelqu'un a ça? Vous pouvez lire, celui qui l'a peut le lire. Hein. 18:34, oui. Voilà. Surtout, ça c'était juste quand Jésus leur dit hein, que le Fils de l'homme doit être battu, etc. Il sera maltraité, etc. Et la Bible dit que ils ne comprenaient absolument rien. Ils avaient une pensée d'un Sauveur, d'un Messie qui allait venir pour régner, mais pas du serviteur souffrant dont Ésaïe 53 parlait. Okay. Donc quand je pense que c'est un choc quand ils voient ce roi, celui qu'ils considèrent comme le roi, s'abaisser pour leur laver les pieds. Pierre dit non, ça trop, c'est trop, hein. On peut pas, tu es le Seigneur, quoi, comporte-toi en Seigneur. C'est comme si il avait envie de dire cela, mais Jésus dit, tu comprends pas ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. Voilà, bon, on pourrait dire encore beaucoup de choses, mais peut-être je peux juste souligner peut-être là-bas ici, parce que je sais pas ce que vous avez mis dans vos questions ici. Si on regarde le verset 15, hein, Jésus donne ici, troisièmement, on pourrait peut-être prendre le temps de rapidement dire cela. Hein, Jésus montre que le croyant doit marcher en disciple qui est animé par l'amour et l'humilité du Seigneur. Les versets 12 au verset 17, c'est ce qu'il montre ici. Mais quand on lit le verset 15, il dit, je vous ai laissé un exemple pour que vous fassiez comme je vous ai fait. Qu'est-ce qu'il demande d'imiter? Je crois que je vous ai mis cette question-là. Quel est l'exemple que Jésus demande à ses disciples d'imiter? Oui. Est-ce que c'est laver les pieds? Son amour, oui. Les uns pour les autres. C'est-à-dire, je pourrais rajouter l'attitude qu'il a, parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous m'appelez maître et seigneur. Et vous, est-ce qu'il dit, je ne le suis pas? Non, il dit, et je le... suis, et vous faites bien de le dire. Mais il ajoute autre chose, hein. Il dit, si donc je suis, moi le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, corps, vous aussi, vous devez laver les pieds des uns les autres. Alors, je sais que ça existe, il y a des endroits où on pratique ça, mais Jésus n'est pas en train d'instituer un rite, hein. Il est en train de dire qu'il faut faire comme je vous ai fait. Il n'a pas dit ce que je vous ai fait, mais comme je vous ai fait, animé de la même attitude, motivée de la même manière, c'est-à-dire ne pas regarder vos positions, corps, comme quelque chose à arracher, mais de vous abaisser pour pouvoir servir, même dans les tâches les plus basses ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit le serviteur n'est pas plus grand que son maître? Qu'est-ce que vous avez mis ici?
La vie du serviteur peut être différente ou mieux que celle de son
maître. Là, la vie du serviteur ne peut pas être différente ou mieux que celle de son maître. Alors, souvent, quand Jésus a utilisé ça, il a utilisé à côté de la persécution, parfois. Hein. Il dit, le maître a été persécuté. Il ne faut pas que les disciples s'attendent à un autre sort. Hein. Et donc, la vie des disciples ne peut pas être effectivement différente de celle du maître. Et vous aviez cette question-là, verset 17, qu'est-ce que Jésus dit ici? Il dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Alors, comment on pourrait résumer ça? Je vous ai proposé une phrase. Est-ce que vous avez trouvé les deux mots à mettre dans le pointillé? Obéissance et savoir. Donc, je lis la phrase qu'elles avaient. C'était la bénédiction du chrétien est liée à son obéissance et pas seulement à son savoir. Parce que Jésus dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Et je remonte un tout petit peu. Jésus dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Et vous dites bien. Ça veut dire qu'on est capable souvent de dire des choses vraies concernant Jésus-Christ. Vous m'appelez Seigneur et Maître, il dit, je le suis. Donc, appeler Jésus comme il est, savoir, ça, on peut faire. Mais il dit, la difficulté que l'on a, c'est pas dans le savoir, c'est dans l'obéissance, voilà, pratique, où il nous est commandé, en tant que disciple, d'agir comme le Maître a agi. Et ça, c'est une chose qui est importante. Ça va être les deux mots de conclusion que j'aurai, et puis je vous assure, je m'arrête. Ce que le Seigneur attend des siens, ce n'est pas, premièrement, la compréhension, en premier temps, mais l'obéissance. Ça rejoint ce qu'on a dit ici. Ce qu'il attend, ce n'est pas, premièrement, la compréhension, mais l'obéissance. Est-ce que Pierre avait compris ce que Jésus faisait? Non. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce que Jésus attendait de lui? Qu'il se laisse faire. Qu'il se laisse faire. En fait, il fallait qu'il s'humilie pour accepter aussi ce que Jésus est en train de faire. Il fallait qu'il abandonne leurs pensées pour accepter ce que Jésus était en train de faire. Donc, on peut penser que Pierre, il veut pas que le Seigneur le fasse, c'est louable, etc. Mais parfois, ça peut être de l'orgueil de ne pas vouloir que quelqu'un d'autre fasse quelque chose aussi pour nous, malgré le rang de cette personne. Hein. Donc, il avait besoin de s'humilier. Et donc, ce que Dieu demande, c'est notre obéissance, d'accord, et pas seulement même si on n'a pas toujours compris. Il y avait le même exemple avec Jean-Baptiste. Lorsque Jésus est venu pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Laisse faire, car il est convenable d'agir ainsi. Et la Bible dit que Jean-Baptiste ne lui résista plus. Il a accepté, il s'est soumis. Ça ne veut pas dire, est-ce qu'il a compris? Je ne sais pas s'il a compris, mais il s'est soumis. Et puis deuxièmement, chers frères et sœurs, l'attachement au Seigneur ne se montre pas dans la proclamation simplement des vérités le concernant, mais par une attitude d'amour qui nous pousse à servir les autres, comme le Maître a servi, à nous humilier comme le Seigneur Jésus s'est humilié. Et ça, c'est une chose qui est importante pour nous de considérer. Les disciples disent ce qui est juste théologiquement. Mais le vrai disciple n'a pas simplement la connaissance du maître, il développe aussi le caractère du maître. Et c'est ça qui est important ici. Le disciple n'est pas plus que le maître, dit Jésus, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, est-ce que nous brillons plus par notre connaissance? Est-ce que nous cherchons à briller par notre connaissance théologique? Est-ce que nous connaissons de Jésus? Est-ce que nous connaissons de la Bible? Ou est-ce que nous cherchons vraiment à ce que le caractère de Christ soit vécu en nous, son amour les uns pour les autres? Est-ce que nous nous abaissons à nous servir les uns les autres, à être vraiment des frères et des sœurs qui nous aimons? Est-ce que, c'est autre chose qui nous intéresse? Ces choses sont importantes pour nous, et ce que le Seigneur Jésus ici montre, comment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, s'humilie, met le comble à son amour pour les siens, et Jésus dira plus loin, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et c'est ça qu'il laisse. Il veut que nous aussi, à son image, nous mettions le comble à notre amour, les uns pour les autres, et que nous sachions nous humilier pour être aussi au service des autres. Prions. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ta parole, et te demandons que par ton esprit, tu nous donne de considérer ces éléments de ces dernières heures avec tes disciples, de les méditer et de laisser ton esprit agir en nous pour que ton caractère, le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ, soit vécu en nous. Merci pour ton amour que tu as manifesté jusqu'au bout. Merci pour ce salut précieux que tu nous as acquis par ton sang. Et nous te prions que, qu'en ces jours qui viennent, nous soyons de véritables témoins qui partageons cette vérité et cet amour les uns pour les autres. Dirige chacun de nous, nous t'en prions, en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.